Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui intitulée « L'empereur Nicéphore Phocas et l'Église » en compagnie de Charles Persona, auteur d'un livre sur ce souverain byzantin du Xe siècle, connu avant tout pour ses exploits militaires. Mais Nicéphore Phocas était aussi un homme d'une grande piété, et c'est essentiellement de ce trait de son caractère que nous allons parler avec notre invité. Charles Persona, vous êtes historien et actuellement directeur de l'Institut National du Patrimoine. Votre bibliographie témoigne de goûts très éclectiques. Vous avez un livre sur Alexandre le Grand, un autre sur Eleftherios Venizelos, homme d'État de la Grèce moderne. Vous avez également co-signé avec Emmanuel Pénicaud « Sauver la rue de Valois, relancer la politique culturelle », ainsi que « L'histoire de France ne passera pas dans les coulisses d'un échec intellectuel et politique ». Votre ouvrage sur Nicéphore Phocas, dont le titre est « L'empereur Nicéphore Phocas, Byzance face à l'islam 912-969 », est paru en 2013 aux éditions Belin. Qu'est-ce qui en fait vous a intéressé chez Nicéphore Phocas ?
En France, on connaît des empereurs byzantins, peut-être les plus emblématiques. On pense à Justinien, on pense peut-être aussi au dernier empereur. Mais peu d'empereurs, finalement, ont eu le droit à une biographie. Et Alexis Comnène a eu une biographie il y a quelques années. Et dernièrement, il n'y avait pas grand-chose sur les empereurs macédoniens. Et voilà, c'est ça qui m'a intéressé, puisque c'est une des périodes d'apogée de Byzance. Il y avait eu à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, les ouvrages magistraux de Schlumberger sur l'épopée byzantine et un sur Nicéphore Phocas. Et j'ai voulu, alors avec modestie, reprendre ce flambeau, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire et que la recherche a un petit peu avancé sur ces sujets également.
Merci. Alors, pour introduire, peut-être avant de parler de ses relations avec l'Église et la religion, on va parler du monde dans lequel il vit. Vous dites qu'il est très intéressant. En plus, c'est une période charnière aussi. Il y a beaucoup de choses qui changent à cette époque-là. Et puis, dire aussi qui il est et pourquoi il est connu.
Oui, c'est une période charnière parce que Byzance reprend l'offensive. Après des siècles de recul face à la conquête arabe, petit à petit, à partir du 9e siècle, grâce à des dynasties de généraux extrêmement habiles, eh bien Byzance est en capacité de reprendre l'offensive sur le front oriental et les Phocas, la famille de Nicéphore Phocas, sont une de ces familles de Cappadoce, qui vont être l'instrument de ce tournant dans l'histoire byzantine qui va permettre à l'Empire de reprendre pied sur sa frontière orientale et de redevenir la grande puissance de la Méditerranée orientale. Avec trois grands souverains qu'on peut citer, Nicéphore Phocas, dont on parle, Gentimitsès, son assassin et successeur, et Basile II, qui est connu comme étant le tueur de Bulgares, le Bulgare Octone. Voilà, ces trois empereurs sont des empereurs fondamentaux de ce nouvel âge d'or de Byzance, qui, comme tout âge d'or politique et militaire, va s'accompagner aussi d'un âge d'or spirituel, d'un âge d'or artistique. Et donc, c'est l'ensemble de cette civilisation byzantine à ce moment tournant qui est intéressant. Alors, Nicéphore Phocas, c'est d'abord un grand militaire issu d'une dynastie de grands militaires. Alors son père a été sans doute moins brillant, mais son grand-père, son arrière-grand-père ont été des militaires de grande valeur. Ils se sont portés sur la frontière orientale de l'Empire, ils ont mené aussi des guerres dans les Balkans, et petit à petit, ils ont grignoté, parce que c'est une lutte pied à pied que mènent les Byzantins contre les dynasties du nord de la Syrie, les dynasties musulmanes du nord de la Syrie. Ils ont grignoté avant de reprendre petit à petit l'offensive et de passer de cette guérilla, je dirais, à une guerre plus classique, de plus grande envergure. Et à mesure que passe le temps, les Byzantins sont en capacité de mener des expéditions beaucoup plus larges qui vont les amener. Alors ça, c'est la grande victoire la première grande victoire de Nicéphore, à reprendre pied en Crète. La Crète, depuis 150 ans, était musulmane. Et là, la Crète redevient byzantine et redevient chrétienne. Donc, c'est vraiment un moment tournant. Et puis, petit à petit, de reprendre pied dans l'est de l'Anatolie jusqu'à reprendre la Cilicie et, à la fin du règne de Nicéphore Phocas, de s'emparer d'Antioche. Donc, c'est vraiment une ville tellement emblématique que les Byzantins reprennent à ce moment-là. Et même Alep. et même Alep, alors provisoirement, parce que les Byzantins savent très bien, et ils ont une certaine prudence en fait, même s'ils savent très bien jusqu'où ils peuvent aller et jusqu'où va leur puissance, et tout cela oriente cet effort militaire dans la direction de l'Est, c'est-à-dire dans la direction de Jérusalem. Hein, c'est, je crois qu'il faut avoir toujours cette référence en tête et savoir que Nicéphore, je le dis au début du livre, se présente comme un nouveau Josué, celui qui va peut-être entrer en terre promise. Donc il y a vraiment cette idéologie-là qui est derrière, qui est très présente chez un personnage comme Nicéphore et qui l'habite. Donc un grand chef militaire qui va aussi redonner du pouvoir à l'État byzantin, renforcer les structures de l'État byzantin en s'appuyant sur les grandes familles d'Anatolie, les grandes familles militaires cappadociennes d'Anatolie. Et puis un homme, on va le voir, habité par une profonde foi chrétienne qui va l'amener à un certain tiraillement, à certains questionnements qui sont tout à fait intéressants.
Juste une petite parenthèse pour dire que nous avions reçu ici, il y a 2-3 ans, Catherine Jolivet, qui est une grande spécialiste de l'histoire de l'art byzantin et de la Cappadoce en particulier. Et ces émissions ont été rediffusées cet été. Et j'invite nos auditeurs à aller sur le site pour voir une très belle photo qui est due à Catherine Jolivet d'une église dite de Nicéphore Phocas à Cappadoce pour voir la splendeur du monument, même si autant de siècles sont passés, pour comprendre que nous avons affaire à une très grande famille, hein, et que Nicéphore Phocas, qui était un enfant du pays, en fait, là, a eu droit à une célébration, si je puis dire, dans un monument religieux exceptionnel. Alors, si vous voulez bien, on va prendre un tout petit peu son éducation, en particulier spirituelle. Vous dites dans votre introduction, en parlant de Nicéphore Phocas, que c'est un empereur inspiré des Saintes Écritures.
Oui, c'est un empereur inspiré des Saintes Écritures. Je vous l'ai dit, il y a ce parallèle avec Josué qui se fait au cours du règne. Il a été, comme tout grand seigneur byzantin, bercé évidemment par la liturgie qu'il a suivie toute sa jeunesse, même si on n'a pas de traces précises de ça. On sait qu'il vit, et vous l'avez rappelé juste à l'instant, dans un environnement familial c'est une famille, les Phocas, qui est vraiment une famille de mécènes de l'église cappadocienne. Et donc, il y a deux exemples. Vous avez cité l'église de Nicéphore Phocas, l'église du Grand Pigeonnier, mais il y a aussi la Tocalique Liseux, qui est une splendeur et avec des artistes venus de Constantinople et financés par les Phocas. Donc, on est dans cet environnement-là. Et puis, on est dans un environnement de Cappadoce qui met en valeur, dans le combat que l'on mène contre l'islam, un certain nombre de saints guerriers, saint Démètre, saint Georges, saint Mercure, qui aussi met en avant le culte de la croix. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Et d'ailleurs, il y a une magnifique staurothèque, un reliquaire de la vraie croix, sur lequel il y a un médaillon qui représente Nicéphore Phocas et qui est le seul portrait attesté du vivant de Nicéphore Phocas. C'est à Cortone en Italie aujourd'hui, enchâssé dans le maître-autel de l'église. Et donc il y a une spiritualité particulière au monde cappadocien et qui en plus vit dans le souvenir des pères cappadociens, les trois grands-pères, Basile et les deux Grégoire, et qui se nourrit également, dans le cas de Nicéphore Phocas, d'une piété familiale, puisqu'il a un oncle très important dans sa formation, Michel Maleinos, s'est retiré, qui a même fui sa famille pour devenir moine, puisque on ne voulait pas qu'il se destinât à cette vocation, et qui s'est retiré dans l'Olympe de Bithynie, et qui a été véritablement un directeur spirituel, on peut le dire, hein, je crois, pour Nicéphore, à tel point que Nicéphore, on le verra, a eu des moments où il se demande s'il ne va pas renoncer à ses charges militaires ou politiques pour rentrer au monastère. Et il est intéressant de savoir que ce Michel Maleinos va être aussi un des maîtres de saint Athanase, le fondateur de la Grande Laure du Mont Athos. Donc là, on a vraiment un environnement dans la formation de Nicéphore Phocas tout à fait particulier. Ce n'est pas simplement une éducation militaire, intellectuelle ou de grands propriétaires terriens. Il y a aussi une part spirituelle très, très marquée.
Alors, nous allons parler longuement de sa relation avec cet Athanase, qui n'est pas n'importe qui, puisque on va voir sa relation avec Nicéphore Phocas, sa vie le conduise à fonder ce qui est aujourd'hui la communauté monastique de l'Athos. Donc c'est au Xe siècle que ça s'est passé. Nous allons introduire toute cette séquence par un chant enregistré à Cariès, la capitale de Latos. Et c'est le père Dionysios Firfiris, qui était un chanteur très connu, qui n'est plus de ce monde, qui chante le tropaire de cet Athanase, l'Atonite, qui est en fait le patron de la Sainte Montagne. Ce tropaire dédié à la gloire et la mémoire de saint Athanase Latonite, le patron de Moatos, en fait. Nous revenons à notre entretien avec Charles Persona, auteur d'un livre sur l'empereur Nicéphore Phocas, pour parler des relations justement de Nicéphore Phocas avec l'Église. Alors cet Athanase est directement lié à Nicéphore Phocas.
Il est directement lié. Nicéphore Phocas rencontre Athanase auprès de son oncle Michel Malainos. Et saint Athanase va devenir une sorte de directeur spirituel des deux frères Phocas, Nicéphore, l'aîné, et Léon, qui est aussi un grand général. Et il va se nouer quelque chose de très particulier entre ces trois hommes, à tel point que dans le Typikon, la règle d'organisation de la Grande Laure, Athanase revient sur cette relation avec Nicéphore en disant « Cet empereur, dont la mémoire est éternelle, entra ainsi en relation avec moi » et place à sa confiance en mon humble personne, ainsi qu'une affection spirituelle et un amour inattendu. Car il n'y avait pas trace de distraction ou d'hypocrisie dans cette âme sainte et irréprochable. C'est pourquoi, du fait de ses dispositions envers moi, il me révéla ses pensées sur le fait qu'il aurait préféré vivre une vie solitaire et comment il en avait été prévenu par les empereurs. Donc on voit que ce noue quelque chose de très particulier, hein. Vous savez, évidemment, l'empereur byzantin est toujours un empereur chrétien. Mais ce que l'on voit chez les grands historiens byzantins, ce qu'ils disent Zès, Léon Diacre, qui parlent de Nicéphore Phocas, c'est qu'ils insistent énormément sur sa piété. Donc elle est un peu particulière, elle est singulière pour eux, elle est différente de celle des empereurs. C'est pas simplement un lieu commun qui est utilisé, mais il y a quelque chose de véritablement. Et ça se noue dans cette relation avec Athanase. Alors évidemment, ça va se tendre, cette relation, quand Nicéphore va préférer finalement la carrière des armes, puis la carrière politique, et va devenir empereur. On sent bien Nicéphore tiraillé. Au moment de la conquête de Crète, il envoie de l'argent à Athanase, qui est parti un peu en secret, qui s'est réfugié sur le mont Athos. Il lui envoie de l'argent pris sur le butin de la prise de Crète pour qu'il puisse fonder la Grande Laure. Et puis ensuite, Athanase va lui reprocher amèrement le fait qu'il soit devenu empereur, et en plus qu'il ait épousé la femme de son prédécesseur, Théophano, dont il était peut-être le parrain d'un de ses fils, qui introduisait une sorte d'inceste spirituel. Hein, le patriarche Polyeucte s'en émouvra aussi. Et donc, on sent qu'il y a un remords chez Nicéphore, et que Nicéphore va combler de bien le monastère, la fondation de saint Athanase, la Grande Laure du Mont Athos, avec un typikon, donc une charte de fondation qui donne une immense autonomie à ce monastère, très particulière, et puis qui lui donne aussi des exemptions fiscales, des dons fastueux, qui vont permettre au monastère de se développer et d'avoir le développement que l'on connaît.
Et on voit ainsi les relations entre les deux hommes qui se rétablissent en quelque sorte. Il faut dire que Athanase, enfin en tout cas il est dit dans la vie d'Athanase, s'est senti un tout petit peu trahi quand il a vu que son compagnon spirituel, en fait, ils avaient même formé le projet de partager un monastère, hein, c'est ça, la vie monastique. Et il apprend qu'il devient empereur et qu'il épouse, de surcroît, la veuve de l'empereur précédent.
C'est ça. Et alors, on sent bien qu'il y aura toujours cette nostalgie du désert chez Nicéphore et qui se fait aménager dans le palais à Constantinople, une sorte de cellule auprès de l'église du Pharos qu'il préfère à la chambre impériale. Et c'est là d'ailleurs qu'il trouvera la mort assassinée, dans cette cellule où il vit de manière extrêmement austère, à tel point que la tradition ensuite dira que voilà, qu'il avait une vie quasi monastique au sein du palais, qu'il s'était éloigné de sa femme Théophano, et d'ailleurs que la tradition ultérieure présente comme une nouvelle Jézabel, enfin comme un personnage presque démoniaque, alors que bon, elle protégeait d'abord la succession de ses fils du précédent mariage. Mais voilà, pour dire qu'il y a cette véritable tentation en permanence du désert et qu'effectivement, même si les relations se rétablissent, Athanase s'est, comme vous le dites, senti trahi au moment de l'accession au trône, certainement.
Donc on voit déjà dans l'action de l'empereur un acte qui va se prolonger dans l'histoire, hein, et combien avec, en fait, la création, la fondation du Moatos, ce que les successeurs ont continué, parce que Tzimiskès donnera le fameux document, le Tragos, hein, qui est toujours gardé à l'Athos, etc. Bon, ça c'est une facette de cette action et de sa relation à l'Église. Puis il y a l'Église officielle, hein, le patriarcat. Il y a en place un patriarche polyeucte qui était déjà là et qui a un pontificat assez long, donc qui couvre tout à fait la période du règne de Phocas. Quelles sont les relations? Parce que pour quelqu'un qui est aussi sensible aux affaires religieuses, en même temps, on voit que ses relations avec la hiérarchie ecclésiastique n'est pas bonne.
Non, les relations sont compliquées. Alors, d'une certaine part, pour le patriarche polyeucte, le règne de Nicéphore est quand même très bénéfique pour l'Église, puisque l'Empire s'étend. La Crète redevient orthodoxe, Antioche est rattaché au patrimoine, au patriarcat de Constantinople, pardon. On rétablit un métropolite à Otrante, dans le sud de l'Italie également. Donc c'est dire l'extension du domaine de l'orthodoxie. Donc tout ça, le patriarche ne peut pas le négliger, et il ne le néglige pas. Mais dans le même temps, il y a un certain nombre de points sur lesquels le patriarche ne veut pas voir cet empereur très pieux empiéter sur son domaine. Et ça, c'est dans la grande tradition des grands patriarches de Constantinople. Le premier point, c'est se pose dès le couronnement sur la question du mariage que nous avons évoqué. Le patriarche polyeucte est contre ce mariage et veut la sortir de pénitence. Ils vont finir par trouver un accord. On va dire qu'en fait, ce n'était pas Nicéphore qui était le parrain des enfants impériaux, mais son père. On va trouver un accord. Bon, mais premier point de friction entre les deux hommes. Il va y avoir un point de friction beaucoup plus important, qui est la question la guerre sainte. Je vous l'ai dit, le milieu cappadocien vit dans une mystique de la guerre contre l'islam, qui est très différent de ce que l'on peut trouver à Constantinople. Et Nicéphore, ainsi que son entourage, vont vouloir que les soldats morts dans ces combats contre l'islam soient déclarés saints. Et le patriarche va s'y opposer fermement. Fermement, à la fois pour des raisons politiques, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se laisser empiéter sur son domaine spirituel. Ça, c'est une chose. Et puis, ça reviendrait sur le canon qui dit qu'on ne tue pas et que tout soldat qui tue doit avoir une pénitence. Et donc, c'est revenir sur la grande tradition de l'Église sur ce point. Il n'y a pas de guerre sainte réellement à Byzance, pas au sens où on a pu l'entendre au moment de la croisade. Et ça, c'est très intéressant. Et là, on a vraiment un débat entre Nicéphore et Polyeucte sur ce point. Et Polyeucte ne va pas céder. Il ne va pas céder aussi parce qu'il ne veut pas qu'on dise qu'il y a des morts aujourd'hui plus importants que ceux du passé. Et donc il faut rétablir aussi une justice au sein du temps et des siècles entre ceux qui se sont dévoués pour l'Empire. Ça, c'est un point de friction. Autre point de friction, évidemment, Nicéphore, très intéressé par les choses religieuses, va vouloir se préoccuper des nominations de métropolites. Donc ça, évidemment, avec quand vous avez un patriarche un peu courageux, eh bien ça ne se passe pas bien. Et le patriarche va défendre son précaré avec succès encore. Et puis, enfin, il y a un point de friction qui concerne davantage le domaine monastique, qui est qu'en 964, Nicéphore Phocas décrète une novelle, un acte juridique, qui interdit aux monastères de recueillir des dons et des legs, première chose, et d'autre part, qui interdit toute création de nouveaux monastères. Pourquoi ? Parce que il y a deux raisons en fait. Il y a une raison vraiment là fiscale et économique. Les monastères ont pris une place extrêmement importante et n'exploitent pas l'ensemble des terres dont ils ont la charge, et donc c'est une moindre rentrée fiscale pour l'État byzantin au moment même où il a besoin de beaucoup d'argent, beaucoup de numéraires pour payer ses armées. Donc il y a cette première raison. Il y a une raison que ça déstabilise aussi, une raison sociale, ça déstabilise la petite propriété byzantine qui est le fondement même de l'État. Donc ça c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, elle est plus spirituelle. Là cette fois-ci, c'est qu'on veut que les monastères ne soient pas préoccupés de leur temporel, mais d'abord de missions spirituelles, au moment même où il y a une grande réforme de ces monastères à Byzance.
C'est donc un souci spirituel aussi, et pas seulement économique, parce que l'État a besoin d'argent pour financer les campagnes militaires. Alors, pour terminer, juste une minute sur la présence de reliques à Constantinople, parce qu'il y est pour beaucoup.
Il y est pour beaucoup. Constantinople, il faut en faire la nouvelle Jérusalem. Et donc, les reliques sont un but de guerre en soi. Et en 944, le Mandylion est revenu d'Édesse et revenu à Constantinople. Et puis, Nicéphore va passer sa vie à prendre de nouvelles reliques dans le nord de la Syrie, des reliques de Saint-Jean-Baptiste, des reliques du Christ comme le Keramikion qui était conservé à l'ancienne Hiérapolis, et petit à petit amasser toutes ces reliques pour faire vraiment de Constantinople cette nouvelle Jérusalem.
Charles Persona, merci beaucoup. Malheureusement, le temps ne permet pas d'aller beaucoup plus loin, mais en tout cas, j'invite nos auditeurs à lire votre livre, L'Empereur Nicéphore Phocas, Byzance face à l'Islam, 912-969, c'est chez Belin en 2013. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Manon Houssin. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.